Nous avions vu le début de cette question 2 sur l'acte intérieur de foi. Alors, le premier article, c'était donc comment saint Thomas précisait que dans l'acte de foi, il y a adhésion et cogitare. Alors, toute la question, c'est de bien traduire ce cogitare, savoir ce que ça représente, cogiter. Évidemment, on peut traduire cogiter. Alors, cogiter, ça veut dire qu'on cherche un peu quand on cogite. On n'est pas encore dans l'adhésion et la contemplation. Quand vous contemplez, vous ne dites pas que vous cogitez. Les Canadiens diraient jaser, cogitare. Les Canadiens de langue française. Alors, on voudrait bien. C'est la perspective. De pouvoir marcher avec, d'avancer, de reculer. Alors, après, saint Thomas précise que l'acte de foi implique croire à Dieu, croire Dieu, croire en Dieu. Credere Deo, credere Deum, credere in Deum. Alors, on n'a pas vu les objections, je les vois rapidement, c'est du reste simple, c'est par rapport aux expressions elles-mêmes. Il semble qu'on aurait tort de faire pour cela des distinctions, car à une habitude unique répond un acte unique. Mais la foi est bien un habitus unique. Vous voyez comme c'est difficile hein, de dire une habitude unique. La foi n'est pas une habitude. Il ne faut pas traduire habitude, ça c'est très mauvais. Il vaut mieux être habitus et pas traduire, c'est tout. Mais habitude, c'est pas habitus. Dire que la foi est une habitude unique, c'est très intelligible. Il n'y a qu'une vertu de foi. Il est donc inadmissible de lui supposer plusieurs actes. Par ces trois choses-là, répond saint Thomas, nous ne désignons pas divers actes de la foi, mais un seul et même acte ayant diverses relations avec l'objet de la foi. Donc ça précise bien, c'est un seul acte de foi, mais une triple relation. Relation triple en fonction de ce on adhère à Dieu. On adhère à cause de Dieu, on adhère à croire à Dieu, on adhère en Dieu. Vous voyez, c'est le triple mouvement de l'acte de foi. Alors, seconde objection, pas de réponse. Troisième objection. Bien plus, ce qui se trouve même chez les infidèles ne peut pas être classé acte de foi. Or, même des infidèles croient Dieu. Il croit que Dieu existe. Croire Dieu ne doit donc pas être compté parmi les actes de foi. Alors, croire, credere Deum, ne se trouve pas chez les infidèles sous l'aspect où nous en faisons l'acte de la foi. Il ne croit pas que Dieu existe dans ces conditions que détermine la foi. Aussi, n'est-ce pas vraiment Dieu qu'il croit, puisque, selon la remarque du philosophe, en face d'un être simple, notre connaissance est en défaut du seul fait qu'elle n'atteint pas cet être en sa totalité. Ça, c'est et ideonec vere deum credere, quia philosophus dicit, in simplicibus defectus cogitationis est solum in non attingendo totalitaire. Tandis que dans la foi, on atteint totalitaire. C'est intéressant comme remarque de saint Thomas, puisque c'est toujours la même chose. Est-ce que quand par ma philosophie, je dis que je crois en l'existé de Dieu, ou quand je dis par la foi, je crois que Dieu existe, est-ce que c'est le même acte? Ou est-ce que c'est deux actes différents? Eh bien, saint Thomas précise ici que ce n'est pas le même acte. Croire à l'exister de Dieu philosophiquement et l'adhésion de foi. Voyez, parce que dans l'adhésion de foi, vous croyez à Dieu dans sa totalité. C'est-à-dire en croyant l'existence de Dieu, vous croyez en la très sainte Trinité. Tandis que lorsque vous croyez que Dieu existe par la philosophie, vous le croyez en fonction de la médiation de la démonstration a posteriori. Voyez. Donc, vous ne croyez pas totalitaire. Toute la question est sur le totalitaire. Alors la réponse dernière, comme tout comme elle meut les autres puissances de l'âme, la volonté meut aussi l'intelligence vers sa fin. Et c'est par là que croire en Dieu est encore un acte de foi. C'est le dynamisme de la foi qui atteint Dieu comme fin. Donc, vous voyez, c'est la complexité de l'acte de foi, on pourrait dire ça, c'est la complexité de l'acte de foi qui nous est présentée de cette manière-là. C'est une adhésion. Une adhésion volontaire. Parce que c'est une adhésion volontaire, elle implique idéo. Parce que c'est une adhésion, elle implique croire l'exister Dieu, on croit Dieu. Et parce que c'est aussi de il deum, c'est mouvement. Croire Dieu, c'est l'adhésion intellectuelle. Et croire à Dieu, c'est s'appuyer sur le motif formel. Et donc, on voit bien comment les trois moments structurent l'acte de foi. Oui. Alors l'article 3, croire quelque chose au-dessus de la raison naturelle est nécessaire au salut. Ben, ça c'est de la nécessité de l'acte de foi. Ça correspondait très nettement, vous voyez, pour ceux qui suivent le traité de la grâce, toute la grande question de la nécessité de la grâce. Alors, vous verrez que saint Thomas ne l'emploie pas tout à fait de la même manière. C'est ça qui est très, très intéressant à voir. Mais ce sont des articles à mettre en parallèle. Alors le 7 contrat. Cependant, l'Épître aux Hébreux dit formellement, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sine fide, impossibilis placere Deo. Partout où des natures forment entre elles un ordre, il se trouve que deux choses concourent à la perfection de la nature inférieure. C'en est une que cette nature soit dans sa propre mouvement, mais c'en est une autre qu'elle soit dans le mouvement de la nature supérieure. Toujours une double perfection. Ainsi, l'eau de son propre mouvement gravite vers le centre de la terre. Mais elle a un autre, mais elle a autour de ce centre un mouvement de flux et de reflux qui suit le mouvement de la lune. Ça, c'est Aristote. Hein, on revient. Pour les marins, le flux et le reflux. Et le mouvement de la lune. De même, les planètes dans leur orbite sont emportées par leur propre mouvement de l'Occident vers l'Orient, mais de l'Orient vers l'Occident par le mouvement du premier ciel. Seule toutefois, dans la création, la nature raisonnable est immédiatement ordonnée à Dieu. Et la partie vers le tout, au fond, c'est ça. Vous avez un mouvement de la partie et vous avez un mouvement de la partie intégré dans le tout. Seule toutefois, dans la création, la nature raisonnable est immédiatement ordonnée à Dieu. La raison en est que les autres créatures n'atteignent pas à l'universel, mais uniquement en particulier. Elles participent à la perfection de Dieu, soit par le seul fait d'exister, comme les êtres inanimés, soit en outre par celui de vivre ou de connaître le singulier, comme les plantes et les animaux. La nature raisonnable, au contraire, en tant qu'elle connaît le bien et l'être, dans leur aspect universel, se trouve ordonnée immédiatement au principe universel de ce qui est. Ça pour le désir naturel. Hein. C'est important à noter. Le désir naturel de voir Dieu. Non, vous voyez bien. La nature raisonnable, au contraire, en tant qu'elle connaît le bien et l'être dans leur aspect universel, se trouve ordonnée immédiatement au principe universel de ce qui est. La perfection de la créature, douée de la raison, consiste donc non pas seulement dans ce qui convient à cette créature selon sa nature, mais aussi dans ce qui lui est accordé par une certaine perfection surnaturelle venant de la divine bonté. C'est très intéressant, ça. Oui, parce qu'en fond, c'est là où saint Thomas voit la nécessité de l'ordre surnaturel. pour un esprit. Voilà bien par où il a été dit plus haut que l'ultime béatitude de l'homme consiste dans une surnaturelle vision de Dieu. À cette vision, il est sûr que l'homme ne peut parvenir s'il ne se met à apprendre à l'école même de Dieu. Selon le passage de saint Jean, quiconque prête l'oreille au Père et a reçu son enseignement vient à moi. Mais l'homme n'entre pas tout d'un coup dans un enseignement de cette sorte. Il y entre progressivement, suivant en ceci la manière même de sa nature. Quiconque d'ailleurs se met ainsi à apprendre doit nécessairement commencer par croire, pour se trouver en état de parvenir à la science parfaite. Même le philosophe le dit bien, il faut croire lorsqu'on veut apprendre. De là vient que pour être en état de parvenir à la vision parfaite qu'on a dans la béatitude, l'homme doit auparavant croire à Dieu comme un disciple au maître qui l'enseigne. Ça, c'est très intéressant pour le désir naturel. C'est la clé. Alors, vous avez là la clé de la chose, et c'est intéressant de voir que c'est le propos de la foi que saint Thomas traite cette question. Vous voyez, comme c'est important de saisir ce que saint Thomas ici, le double mouvement d'une réalité, la double perfection. In omnibus naturis ordinatis in venitur quod ad perfectionem naturae inferioris duo cocunt. Et ces deux sont liés essentiellement. Il y a deux aspects: unum quod est secundum proprium motum, alium secundum est motum. Alors voyez, le mouvement naturel, il est les deux. C'est ça qui est très curieux. Vous avez la partie. La partie par rapport au tout. Ça serait intéressant par rapport à Hegel, toutefois, de regarder ça. Parce que ce serait justement, là on verrait la notion de la partie du tout et comment concevoir cette notion de la partie du tout. La partie a sa propre perfection, qui est son mouvement propre, et puis en tant qu'elle subit l'influence du tout. Alors l'exemple de saint Thomas est très simple, c'est l'eau par rapport au centre de la Terre et l'eau par rapport à la Lune. Donc c'est l'eau qui fait partie d'un tout de l'univers. Alors par rapport à la Lune, elle a son mouvement propre, mais elle a les deux mouvements. Ce qui est intéressant, ce que saint Thomas souligne, hein, après avoir donné ça, il montre ce point de vue du tout et de la partie. Première partie, c'est montrer ce point de vue-là. Ensuite, il souligne « seul toutefois ». Alors c'est ça. « Sola autem natura rationis creata habet immediatum ordinem ad Deum ». Donc, tout est particulier quand il s'agit de la nature raisonnable. Donc le mot « nature » prend deux significations différentes. Et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez la nature, la phusis, ce qu'Aristote avait souligné déjà en fond, c'était le gros problème d'Aristote. Vous avez ici la phusis. La phusis au sens fort. Alors dans la phusis au sens fort, vous avez partie et tout. Vous avez le cosmos. Le cosmos, c'est le tout. Et la phusis fait partie de ce tout. Alors la phusis peut s'entendre de deux manières. L'ensemble ordonné, c'est le cosmos. L'ordre des parties dans le tout. C'est ça le cosmos. C'est l'ordre des parties dans le tout. Alors si vous avez l'ordre des parties dans le tout, vous avez toujours double mouvement, le mouvement de la partie et le mouvement de la partie soumise au tout. La partie prise comme elle-même et la partie prise soumise au tout. Première vision. Deuxièmement, alors c'est ça qui me semble très important à souligner. Sola autem natura rationalis creata habet immediatum ordinem ad Deum. Donc quand il s'agit de l'homme, l'homme, c'est justement ce sola parmi tous les autres. L'homme, c'est une nature spirituelle, une nature rationnelle, natura rationalis. Mais alors c'est ce natura rationalis qu'il faut bien comprendre. Sola autem natura rationalis creata habet immediatum ordinem adium. Donc elle a un ordre immédiat vers Dieu. Et saint Thomas avait expliqué quia citere creaturae nada tingunt ad aliquid universale. Le métaxu que prend toujours saint Thomas, c'est que de fait, quand il s'agit de la nature raisonnable, elle atteint quelque chose d'universel. Tandis qu'au contraire, les créatures en dehors de les créatures qui sont uniquement des parties n'atteignent que quelque chose de singulier. La raison en est que les autres créatures n'atteignent pas à l'universel, mais seulement au particulier. Elles participent à la perfection de Dieu, soit par le seul fait d'exister, comme les êtres inanimés, soit en outre par celui de vivre et de connaître le singulier, comme les plantes et les animaux. La nature raisonnable, au contraire, en tant qu'elle connaît le bien et l'être dans leur aspect universel. Connaissance naturelle selon un mode universel. Comme elle connaît le bien et l'être. Perfectio naturalis creaturae non solum consistit, oui, natura autem rationalis, in quantum, en tant qu'elle connaît l'universalem, boni et entis rationem, la raison universelle de bien et d'être. Elle a un ordre immédiatement, un ordre immédiat, vers le principe universel des êtres. Un ordre immédiat vers le principe universel des êtres. C'est très fort. Et il dit bien un ordre immédiat. Un ordre immédiat vers le principe universel, principium universale sancti. Donc, la perfection de la créature rationnelle non seulement consiste en cela qui lui convient selon sa nature, mais même en cela qui lui est attribué à partir d'une certaine perfection surnaturelle de la divine bonté. Et ceci, c'est encore perfection naturalis, perfection creaturae rationalis. La perfection de la créature rationnelle, spirituelle, non seulement consiste en ce qu'il convient selon sa nature, mais même en ce qui lui est donné gratuitement, une certaine perfection surnaturelle. La nature raisonnable, au contraire, en tant qu'elle connaît le bien et l'être, dans leur aspect universel, se trouve ordonnée immédiatement au principe universel de ce qui est. La perfection de la créature douée de raison consiste donc non pas seulement dans ce qui convient à cette créature selon sa nature, mais aussi dans ce qui lui est accordé par une certaine perfection surnaturelle venant de la divine bonté. Voilà bien par où il a été dit plus haut que l'ultime béatitude de l'homme consiste dans une vision surnaturelle de Dieu. L'ultime béatitude de l'homme. À cette vision, il est sûr que l'homme ne peut parvenir s'il ne se met à apprendre à l'école même de Dieu. Mais l'homme n'entre pas tout d'un coup dans un enseignement de cette sorte. Il y entre progressivement, suivant en ceci la manière même de sa nature. Quiconque d'ailleurs se met ainsi à apprendre doit nécessairement commencer par croire, pour se trouver en état de parvenir à la science parfaite. De là vient que pour être en état de parvenir à la vision parfaite qu'on a dans la vision, dans la béatitude, l'homme doit auparavant croire à Dieu, comme un disciple au maître qui l'enseigne. Oui, c'est extraordinaire comme manière de montrer exactement la nécessité de la foi. C'est très très important, hein, au point de vue apostolique. C'est très très important de montrer la nécessité de la foi il ne s'agit pas de connaissance de l'univers, il ne s'agit pas de connaissance du cosmos au niveau vie et au niveau être, il s'agit uniquement de la béatitude de l'homme. Donc c'est par la finalité. La béatitude de l'homme. C'est la béatitude de l'homme qui exige, vous voyez dans quel sens, l'ordre surnaturel. Oui.
Alors, la conclusion, c'est que la foi est une perfection de l'homme, et donc elle est nécessaire.
Non, la chose consiste à dire de montrer exactement où s'insère la foi dans le grand mouvement de l'homme vers sa béatitude. C'est ça. C'est montrer l'insertion de la foi. À quel moment vous êtes obligé de poser la foi, la nécessité de la foi, dans le grand mouvement de l'homme vers la béatitude. C'est ça. C'est le mouvement même de cet article. Oui. Donc c'est par rapport à la béatitude, comprenons bien, c'est par rapport à la béatitude qu'on souligne la nécessité de la foi. Si vous n'avez pas un désir de béatitude surnaturel, divin, de vision divine, la foi n'est pas nécessaire. Pas besoin. Mais comme ce désir de béatitude de voir le plus de Dieu est naturel, la foi est nécessaire. Vous voyez, point extrêmement délicat. Ça, la chose, c'est par rapport à la béatitude. C'est très astucieux, hein. C'est très fin comme chose. Mais c'est pas commode à bien saisir. Hein. Oui.
Parce que la première partie de l'argument avec lequel les hommes connaissent le bien universel et l'être sur l'être peut être utilisé en tant que naturel.
Montrer la nécessité. Par où il est nécessaire que l'homme découvre l'existence de l'être premier.
Mais plus loin, mettons, pour démontrer l'immortalité de l'âme.
Ah, l'immortalité de l'âme. Ah oui, ça, c'est la fameuse question de l'immortalité de l'âme par le point de vue universel. Vous voyez ? Oui, par rapport au principe, mais pas par rapport à l'universel. Et ça n'a pas le fait par rapport à l'universel, je le sais. Mais vous voyez, je crois que nous devrions le faire au plan philosophique. Hein. On est en théologie, ne l'oublions pas. On n'est pas en métaphysique.
L'universel, c'est le principe
Le principe est samedi. Le principe universel d'être.
C'est Dieu.
Le créateur.
Est-ce que ça suffit pour démontrer l'immortalité de l'âme,
par exemple ? Je crois que c'est à partir de là qu'on peut montrer l'immortalité de l'âme. Pour moi, je ne crois que ce n'est que le moment où l'intelligence humaine a démontré l'existence de Dieu que je peux dire que là, que l'homme a une âme immortelle. Mais pas avant.
Par cet argument-là.
Oui. À partir de là. Oui. C'est à partir de là, je crois. Parce qu'on touche un principe d'être, vous voyez ? Tandis que par l'universel tout court, c'est pas suffisant. Vous voyez ? Tandis que là, oui, parce qu'on remonte à une cause. Et vous voyez, l'argument est très très télescopé, là. C'est extraordinaire. C'est très dense. Parce qu'on est dans l'ordre de l'appétit. Dans l'ordre de l'appétit. Alors dans l'ordre de l'appétit, on n'est pas du côté, vous voyez, de la connaissance quantitative. Hein. On n'est pas du côté de l'appréhension. On est du côté de la connaissance de l'appétit. Deux choses l'eau à même. Ça demande une longue. Faut y réfléchir un article comme ça, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On est en théologie, hein, en philosophie, je ne pourrais pas être si rapide. Je ne pourrais pas être si rapide, vous voyez, là, il y a des choses qui au point de vue philosophique, si vous sortez de ça du contexte théologique, vous faites dire à saint Thomas, mais il est ontologiste. C'est ontologie, comme ça, si je le prends au point de vue philosophique. Regardez, je prends ça, hein, cet article-là. Perfectio igitur rationalis creaturae. Non solum consistis in eo quales ei competit secundum soam natura. Donc la perfection de la créature raisonnable, non seulement consiste en cela qui lui arrive selon sa nature, mais même, etiam, perfectio, la perfection de la créature raisonnable, rationnelle. Cet etiam in eo quades ei attributur ex quadam supernaturali perfectionne divini dominatis. Vous voyez, alors c'est le mot perfection. Et alors c'est ça qui est intéressant, vous voyez, c'est que ici il montre deux perfections. Et dans la créature sainte, une perfection. Et dans cette unique perfection, il y a l'homme naturel dans son naturel.
Le texte de la Léonie donne participative.
Donne
participative.
À propos de, où disait le texte ?
Extradam supernaturalim participatione.
Extradam supernaturali perfectionné, diviné.
Il remplace, la Léonie remplace perfectionné par
participation. Ça revient au même. Ça revient au même, point de vue sens. Vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est même mieux. Parce que la perfection sur le naturel, ça ne va pas. Vous voyez, ça donne plus de force à l'argumentation de Saint-Thomas. Vous voyez, parce que d'une certaine participation surnaturelle, elle est démontrée. Ça va mieux. Vous voyez, pour maintenir ce qui est l'argumentation de Saint-Thomas, parce que je crois que c'est ça le nerf de l'argumentation, hein, c'est quand il s'agit des réalités qui sont parties et tout, vous avez deux perfections. Quand il s'agit de l'homme, il y a une perfection. Alors ça montre comment la perfection surnaturelle ne s'ajoute pas à la perfection naturelle comme quelque chose d'extrinsèque, comme le mouvement du flux et du reflux par rapport à l'eau. Vous comprenez que l'eau est agitée d'un flux et d'un reflux, c'est quelque chose d'extrinsèque à l'eau. Le véritable mouvement de l'eau, c'est tendre vers la terre. Tandis qu'ici, on va montrer que dans la perfection de l'homme, de la créature raisonnable, il y a, parce qu'il y a un ordre immédiat des lieux, il y a la perfection naturelle et la perfection surnaturelle, les deux font la perfection de l'homme. Oui ? Oui ?
Je veux savoir comment il y a des mots, le don, lorsqu'il dit la don, la perfection de l'homme.
Ergo, hein, igitur, perfection. C'est ça que vous avez, perfection, igitur.
Non, j'ai
ergo.
Perfection,
ergo. Dites à perfection. C'est le même endroit que nous avons.
Oui,
l'ergo.
C'est la différence.
Ah, c'est ergo et dito, donc. C'est la conclusion. C'est la conclusion. Vous voyez, c'est parce qu'au fond, c'est ça. Et c'est ça que je crois le nerf. Le nerf est là. Hein, et là, il faut le saisir, le nerf de bœuf. Hein, bah, ça réagit. Vous avez, quand il s'agit des réalités partielles, particulières, vous avez deux perfections. Une qui est dans la ligne de la nature et une perfection en fonction du situs. La partie par rapport au tout. Donc deux perfections. Alors je comprends très bien l'exemple, hein, pour soit plus ou moins vrai, l'eau qui autour de la terre, et puis l'eau flûte. Donc deux perfections qui viennent s'ajouter. Quand il s'agit de la nature raisonnable, de l'homme n'est pas vraiment parti. Pourquoi ? Parce qu'il est immédiatement relié à Dieu. Et c'est ça le point de vue. Natura autem rationalis in quantum cognoscit universalem boni et entis rationem habet immediatum ordinem. Alors c'est cet immediatum ordinem ad universalis sandi principio. Elle a un ordre immédiat, elle est ouverte, on pourrait dire ça. Elle est parce qu'elle est ordonnée vers la raison universelle de bien et d'être, parce qu'elle est ordonnée vers cela, parce qu'elle est faite pour ça, c'est au fond, ça revient à ce que dit saint Thomas quand il dit tout simplement « Primo cadit in intellectus ens ». Bon, si c'est « ens » qui tombe d'abord « cadit » dans l'intelligence, ça vaut que l'intelligence est ouverte vers Dieu. C'est la conclusion immédiate. C'est la natura rationalis in quantum cognoscit rationem universalem boni et entis. En tant qu'elle connaît la raison de bien et d'être, la raison universelle de bien et d'être, donc en tant que je fais de la métaphysique, parce que mon intelligence, ma conscience de saisir la raison universelle de l'être, bien que quand je fais de la métaphysique, hein, pas autrement. Elle est un bœuf qui laboure, mais qui est une partie, tout simplement. Tandis que j'ai mon intelligence qui s'ouvre et qui comprend qu'elle n'est pas une partie quand elle fait de la métaphysique. C'est la grandeur de la métaphysique. C'est à ce moment-là seulement que toute la philosophie conduit à ça, mais c'est à ce moment-là seulement que l'intelligence, comme le Neufschicht, la raison universelle devient être. Alors, entend qu'elle connaît, entend, est là. C'est ça l'ouverture. Un ordre immédiat vers le principe universel d'être. Et alors, parce qu'elle a cet ordre, vous comprenez bien, parce qu'elle a cet ordre vers ce principe universel, il y a donc un désir de saisir le sens du jeu. Oui.
Mais est-ce que c'est pas un ordre immédiat, parce que Dieu ne parle pas de Dieu propre ?
Il ne le dit pas. C'est ça que je dis, c'est, il ne le dit pas, oui.
Est-ce que l'immédiat ne s'oppose pas aux autres réalités qui sont reliées à Dieu ?
Mais c'est tout à fait. Il montre immédiat en ce sens que le bien de l'homme, le bien de l'homme, voyez, je prends le raisonnement analogique qu'il prend. C'est ça l'ouverture. Un ordre immédiat vers le principe universel d'être. Et alors, parce qu'elle a cet ordre, vous comprenez bien, parce qu'elle a cet ordre vers ce principe universel, il y a donc un désir de saisir le sens du jeu. Oui.
Mais est-ce que c'est pas un ordre immédiat, parce que Dieu ne parle pas de propre ?
Il ne le dit pas. C'est ça que je dis, c'est, il ne le dit pas, oui.
Est-ce que l'immédiat ne s'oppose pas aux autres réalités qui sont reliées à Dieu ?
Mais c'est tout à fait. Il montre immédiat en ce sens que le bien de l'homme, le bien de l'homme, voyez, je prends le raisonnement analogique qu'il prend. Selon le raisonnement analogique, la partie particulière est ordonnée vers un bien particulier. Mais comme elle fait partie d'un tout, il y a l'influence de ce tout. Qui est extrinsèque. Le flux et le reflux ne fait pas partie de la nature de l'eau. Mais fait partie de la nature de l'eau en tant que l'eau est dans le cosmos et subit la lune, le mouvement du flux. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de la nature humaine est ordonnée vers la raison universelle de bien et d'être. Elle est ordonnée à sa propre. Je n'ai conscience que mon intelligence est ordonnée à la raison universelle de bien être qu'au niveau philosophie première. Hein ? À ce moment-là, il suffit de réfléchir un instant, dès que je fais de la métaphysique, que mon intelligence est ordonnée à la raison universelle d'être. Donc, alors, du fait même qu'elle est ordonnée à cela, vous voyez, je touche là la fine pointe de l'intelligence. Hein ? L'intelligence dans ce qu'elle a de plus elle-même. Puisque je crois que la métaphysique, c'est l'intelligence dans ce qu'elle a de plus elle-même. C'est son bien naturel. C'est son bien naturel. Donc c'est bien particulier. Alors à la place d'être un bien particulier, c'est la ratio universalis boni. Ou entis. Ça revient au même. Puisqu'ils sont convertibles. Donc ratio universalis boni. Ici c'est un bien particulier. Alors du fait même que l'intelligence humaine atteint cela, que c'est son bien propre, nécessairement, elle est ouverte à Dieu. Immédiatement. Non, c'est bien ce qui est dit. Natura autem rationalis in quantum cognoscit, en tant qu'elle connaît, en tant qu'elle connaît, in quantum. Hein, c'est bien, il faut bien mettre la raison formelle. Hein. In quantum cognoscit, universal, rationem universalem boni et entis. Habet immediatum, c'est à l'intérieur même de son bien, c'est pas extrinsèque. Alors l'immediatum montre essentiel. Vous voyez ? C'est pas immediatum en opposition avec le métaxu de la démonstration a posteriori, ça ce serait tout à fait faux. Vous voyez ? C'est par rapport au bien, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention. C'est par rapport à l'imperfection, c'est pas à la manière de connaître, parce qu'alors on est très contradiction. On dirait que saint Thomas dit là que l'intelligence humaine est directement ordonnée vers Dieu. Et ce serait, vous voyez, la confusion avec l'ontologie. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que là, vous voyez comment on peut tomber dans l'ontologie. C'est de confondre l'ordre de l'appétit, du bien, avec l'ordre de la connaissance. Et c'est ça l'ontologie. C'est la confusion des deux. on le verra au point de vue philosophique, au point de vue théologie naturelle, mais c'est important de le voir ici, parce que ça, c'est quand même très intéressant, cette manière dont Saint Thomas saisit ici la chose. Donc, abet immediatum ordinem, ad universale principio essenti. Donc, c'est son bien essentiel, et je dirais son bien propre. Connaître Dieu, c'est le bien propre de la créature raisonnable. C'est pas un bien extrinsèque, c'est pas l'influence de la lune sur nous. Ça peut être très bien dans un sermon, vous voyez. Alors, ça pourrait chier en Bretagne, tu vois, l'influence. Bien, certains disent que connaître Dieu, c'est comme pour l'eau, être sous l'influence de la lune, de flux et de reflux. Eh bien, non, c'est pas ça. C'est extrinsèque à l'intelligence humaine. Elle a immédiatement cet ordre immédiat vers le principe universel d'être. Alors, perfection du tour, donc, la perfection, vous voyez, c'est la conclusion. Pour montrer qu'à ce moment-là, et c'est ça qui est très très curieux, après avoir montré ça, on va montrer qu'ici il y a deux perfections, ici il y a une perfection. Ça qui est extraordinaire, hein, on intègre. Donc l'ordre vers Dieu, l'ordre immédiat vers Dieu est intégré comme la perfection propre de la créature raisonnable. Perfectio dito rationalis creature, non solum consistit in eo codes competit secundum arbitrarum, donc connaître les petits individus, connaître les choses particulières, c'est d'être siable, vous voyez, connaître la sexualité des araignées, aussi si vous avez la connaissance particulière de l'homme. Perfectio rationalis creature, non solum consistit in eo codes et y competit secundum suam naturam, c'est d'étiam tout domaine des sciences, tout domaine des connaissances humaines, normales, c'est d'étiam ilio quod essei attributum ex quodam supernaturali participationem divinem.
Mais est-ce que la perfection qui lui convient selon sa nature, c'est pas le bonheur au niveau naturel?
Oui, mais c'est la connaissance naturelle, c'est tout ce qui compte, tout ce qui...
Alors est-ce que c'est particulier?
Quoi?
Est-ce que la connaissance de Dieu, mais par la raison naturelle, n'est pas...
Faisons attention, c'est très délicat. C'est pas... Il est au niveau perfection. Donc la perfection, non selon ce qui competit suam naturam. Qu'est-ce qui competit suam naturam?
La contemplation.
Oui, c'est sûr, mais déjà quand vous dites la contemplation, vous prenez l'ouverture vers Dieu. Oui. Tandis que je crois que s'il prend l'analogie, parce qu'il suit l'analogie, hein, faisons attention. S'il suit l'analogie, il suit l'analogie pour essayer de montrer qu'il n'y a pas deux perfections, il n'y en a qu'une. Alors, il prend la perfection immédiate selon sa nature. Je dirais l'amitié. Je crois qu'il faut mieux prendre ça. C'est l'amitié, c'est ce qui est immédiatement donné selon sa nature. Il y a d'autres choses. Parce que vous voyez, si vous prenez déjà la contemplation, vous avez déjà introduit autre chose. Si je prends l'analogie, hein, je suis d'accord avec vous au point de vue de la nature, mais si on suit le raisonnement analogique de saint Thomas, il y a un raisonnement analogique. Bon, ce raisonnement analogique consiste à montrer que lorsqu'il s'agit de la créature raisonnable, il n'y a plus deux perfections, il n'y en a qu'une. Une qui va intégrer l'ordre naturel au surnaturel. C'est ça là, ce qu'il montre. Hein. Ça, je crois que ça, c'est ça qu'il veut montrer. Et pour nous faire montrer l'intégration de l'ordre surnaturel par rapport à l'ordre naturel, cette intégration se montre qu'il y a un ordre immédiat vers Dieu. Oui. Cet ordre, alors je suis tout à fait d'accord que cet ordre immédiat vers Dieu, c'est la contemplation, c'est la contemplation philosophique. Mais le raisonnement ici, ce sera a contrario par rapport aux réalités qui ne sont pas spirituelles, elles ont deux perfections. Ce serait très intéressant de faire des intégrations comme ça par rapport, vous voyez, à une communauté. C'est très curieux, l'intégration. Parce qu'en fond, là, on verrait le double précepte d'amour aimer Dieu et les prochains, comment ça s'intègre. Vous voyez, il y a même la même chose. L'intégration, on peut être, vous voyez, j'ai mon bien individuel, et puis je subis l'influence de la communauté, comme le flux et le reflux. Vous voyez ? C'est vrai, c'est très clair, on se suit d'un flux de refus. Et puis, il y a une intégration plus profonde qui fait comprendre que mon bien individuel et personnel va assumer l'autre. Vous voyez, c'est deux choses différentes, mais je crois qu'on pourrait faire des raisonnements analogues. Parce que ça me semble très intéressant ici, ce raisonnement qui donne perfection igitur, creatur et rationalis, non solum consistis in eo codis competit, soit secundum soit notoire. Alors vous mettez tout ce qui compétit soit notoire, tout ce qui lui arrive selon sa nature. Et alors la première béatitude, c'est l'amitié, c'est sûr. C'est l'amitié première. Sedetiam, tout de suite, sedetiam, ineo codei attributur, ex quadam supernaturali participatione divine veritatis. Unde et supra dictu, quod ultima beatitudo hominis consistit in quadam supernaturali visione dei. Mais, alors, on explicite. C'est l'explicitation. Unde, c'est l'explication, c'est pas du tout. C'est unde. Donc on peut expliciter ce qui a été dit plus haut, ce qui a été précis, montré plus avant. L'ultime béatitude de l'homme consiste dans une certaine vision surnaturelle de Dieu. Alors, pour cette vision surnaturelle, il faut la foi. Parce qu'il faut y arriver progressivement. Et pour y arriver progressivement, il faut une première étape, la première étape, l'école maternelle. L'école maternelle de la vision béatifique, c'est la foi. C'est l'école maternelle. Il faut des étapes successives. Et la première étape, c'est la foi. Alors, on croit. Et vous voyez, alors c'est intéressant parce que ça montre que la seule raison qui légitime la foi, c'est la vision béatifique. Alors ça me semble capital. La seule raison qui légitime la foi, c'est la vision béatifique. Donc une vie chrétienne qui n'est pas ordonnée à la contemplation, la foi devient insupportable. Parce qu'on ne voit plus la raison. Vous voyez ? Alors il y a un rejet d'un corps étranger. Ça ne peut pas être autrement. Pourquoi certains perdent la foi ? C'est parce qu'ils n'en voient plus la raison, ils ne voient plus pourquoi la foi. Eh bien, la foi n'a de raison que parce qu'on est ordonné à la vision béatifique. Si on n'était pas ordonné à la vision béatifique, on ne pourrait pas légitimer la foi. Dieu ne pourrait pas, dans sa sagesse, nous demander la foi. Dieu peut nous demander la foi parce que nous sommes ordonnés à la vision béatifique. Et alors, le jour où on ne voit plus, on met entre parenthèses la vision béatifique, et donc le désir de contemplation, la foi n'a plus de raison d'être. Ça devient un corps étranger. Alors il y a le rejet du corps étranger. La foi est, au contraire, fait partie de ma vie dans la mesure même où j'ai un ordre vers la contemplation. Contemplation divine, contemplation surnaturelle, la vision de Dieu. Vous voyez, je crois que c'est tout le but de saint Thomas, ça. Et alors ça, c'est très très fort parce que ça fait comprendre, vous voyez, crise de l'athéisme, suppression de la foi, c'est ça, c'est à cause de ça. C'est à cause de ce point de vue-là. Parce qu'il n'y a plus. Oui, autrement dit, pour une vie purement active, la foi ne se légitime pas. Alors quand vous avez uniquement une activité, une vie qui s'oriente uniquement vers le point de vue de l'activité, fatalement, un jour ou l'autre, on trouve la foi à un poids inutile. Et on le rejette. Il y a rejet. La foi ne prend son intelligibilité que s'il y a orientation vers la vision béatifique. Ça, c'est toute l'argumentation. Très bien. On verra ça à la prochaine, la réponse aux objections.